Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français en ce samedi sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui de la culture, bien entendu, nos rendez-vous avec la communauté. Mais on commence tout d'abord avec notre rubrique rétrospective, comme chaque samedi. C'est arrivé aujourd'hui.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
C'est arrivé un 1er février. Notre rubrique rétrospective aujourd'hui, direction 1984. Et Valentine Saboureux revient sur les débuts compliqués du service de sécurité sociale que vous connaissez sous le nom de Medicare. 40 ans plus tard, les Australiens restent très attachés. Récit avec des extraits issus du National Film and Sound Archive of Australia.
Le 1er février 1984, le service de couverture de santé universelle australien Medicare est lancé par le gouvernement Labor de Bob Hawke. Il n'est cependant pas tout à fait nouveau puisqu'il reprend les grandes lignes de son ancêtre Medibank, mis en place 9 ans plus tôt par Gough Whitlam. Au 19e siècle en Australie comme en Angleterre, les soins de santé relèvent du domaine privé. Ils sont prodigués aussi bien par des médecins aux formations variées et souvent peu structurées que par des apothicaires ou des proches. On ne va à l'hôpital qu'en dernière extrémité, avec le risque permanent de ne pouvoir payer l'addition, sauf à s'endetter lourdement ou à laisser une grosse ardoise. Petit à petit, les Australiens vont néanmoins profiter d'avancées sociales. Elles prendront la forme de pensions ou d'indemnités versées d'abord aux personnes âgées et invalides, puis aux femmes en cas de maternité, et enfin aux malades et aux chômeurs. La prise en charge de soins et actes médicaux par l'État attendra, elle, 1975. C'est le gouvernement de Whitlam qui réussit à faire voter la loi sur Medibank et donne ainsi le coup d'envoi du premier service de sécurité sociale australienne. Son fonctionnement est présenté à l'époque sur le petit écran.
Is it going to cost any more?
Does it cost me more money?
Who's going to pay for all this?
Well, who pays for it?
Medibank is paid for out of general revenue. There are no direct payments to be made. Medibank is contribution free. It costs no more than the present program, but unlike the present program, covers everyone in Australia.
Hélas, Medibank ne fait pas long feu. Le service est régulièrement raboté par le gouvernement libéral Fraser, qui prend la suite de Whitlam. Fin 1981, Medibank est d'ailleurs complètement aboli pour devenir une assurance de santé privée, détenue par le gouvernement, puis complètement privatisée. Il faut attendre l'arrivée de Bob Hawke au pouvoir pour que le sujet revienne sur la table. En 1983, durant sa campagne électorale, l'ancien syndicaliste devenu patron du Labor déclare « Le nouveau programme Medicare, pour 9 Australiens sur 10, cela signifiera payer moins pour se soigner et soigner sa famille. » Élu en mars, il se met aussitôt au travail avec son ministre de la Santé Neil Blewett et son ministre des Finances, Paul Keating. La loi sur Medicare est finalement votée, avec un lancement prévu pour le 1er février 1984. Une campagne de publicité est rapidement développée, et le Premier ministre donne même de sa personne pour expliquer la procédure d'adhésion.
Remember, you will receive this envelope, fill in this enrollment form, return it in this envelope.
Then every Australian, from newborn babe to Prime Minister, can share in the cheapest, simplest and fairest health insurance scheme Australia's ever had.
Medicare.
Dès ses débuts, 14 millions d'Australiens sont affiliés à Medicare, soit 92% de la population, et 6,5 millions de cartes sont émises, donnant droit à la prise en charge directe de dépenses chez le médecin généraliste ou des frais hospitaliers. Par ailleurs, de nombreux médicaments sont aussi remboursés en totalité ou en partie. Conséquence directe, alors que les dépenses médicales étaient la cause, de nombreuses faillites personnelles et professionnelles, tel n'est plus le cas désormais. Aujourd'hui, malgré les pressions sur le système, Medicare tient bon. En 2021, une étude du Commonwealth sur les performances des systèmes de santé de 11 pays à haut revenu a même classé l'Australie à la troisième place, derrière la Norvège et les Pays-Bas, la France arrivant huitième et les États-Unis bon dernier.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Tu rêves quand même d'aller sur la lune.
Paris Combo avec Maudit Monet. Voilà, on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français, vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur SBS French. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Marianne Poiret, la directrice générale de la chaîne de restaurants Four Frogs, des crêperies qu'on retrouve à Sydney. Il me semble qu'il y en a quatre. Bonjour Marianne.
Bonjour Grégory. Merci de me recevoir aujourd'hui.
Mais avec grand plaisir. En plus, on va parler d'un événement à venir que vous organisez, qui s'annonce, en tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup, un festival breton à Sydney. C'est bien ça?
Oui, c'est exactement ça. On a décidé d'apporter un peu une région bretonne sur l'Australie et de faire découvrir cette merveilleuse région qu'est la Bretagne à Sydney.
Alors, moi, la première question que je me suis posée en voyant ça, encore une fois, les crêpes, le cidre, tout le folklore lié à la Bretagne, moi, c'est quelque chose pour lequel je serais ravi de me rendre, mais on est quand même très très loin de la France. Il y a déjà un certain nombre d'événements liés à la culture française qui sont organisés ici, comme le festival du cinéma français. Il y a par exemple aussi So Frenchy So Chic qui tourne autour de la musique. Et là, vous partez sur une région française. Est-ce que c'est pas un petit peu trop ambitieux pour, encore une fois, un pays situé à 17 000 km de la Bretagne?
Non, je ne pense pas. Et puis, moi, j'ai toujours aimé les challenges, dans tous les cas. Après, effectivement, je pense que ce qui est représenté beaucoup sur Sydney, c'est quand on pense à la France, on pense à Paris, hein, c'est évident. C'est ce qui ressort le plus dans notre culture. Mais ce que je pense, la culture australienne ne se rend pas compte, c'est qu'en France, on a cette partie celte qui est très importante sur la partie ouest de la France. Et on s'était dit, effectivement, la résonance celte pourrait effectivement être mise en avant avec notre festival de la Bretagne et puis partager une fois de plus notre culture française qui reste riche. Et effectivement, nos festivals français, on n'a pas que Paris, on n'a pas que le côté cinéma ou amour. C'est vrai qu'il est temps à un moment donné de diversifier et puis d'essayer de tenter d'explorer d'autres régions françaises. Et je pense que la Bretagne, nombreux Français sont ici en Australie et résonneront tout de suite avec notre événement. Et on s'était dit, à Four Frogs, on fait des crêpes, on est très proche de nos producteurs de cidre en France. Et puis, on s'est toujours dit, la Bretagne nous a abordé en disant, est-ce qu'on serait intéressé pour devenir ambassadeur de Bretagne sur Sydney?
La Bretagne, et puis, la région Bretagne, vous voulez dire, je crois que vous êtes en partenariat avec
la région Bretagne.
Ouais.
Oui, c'est ça. J'ai été très honorée, effectivement, d'avoir été en contact avec la région Bretagne qui nous ont proposé de représenter la Bretagne sur Sydney. Et donc, de ce fait, nous ont lancé l'idée de pourquoi pas faire un festival breton et de mettre en avant nos produits qui sont la crêpe, le cidre, et puis faire découvrir les biscuits, la musique et les danses. Parce qu'on aura effectivement, j'en parlerai un peu plus tard, mais de notre programme, on aura des danses bretonnes, des cours de danse bretonne. Donc c'est un challenge, hein, j'en doute pas, mais qu'on est prêt à relever et puis à faire partager une partie de notre culture française, notamment sur la Bretagne, sur Sydney.
Ok, alors donc je le disais, ça se passe le 1er février prochain, un jour avant la Chandeleur. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va trouver à ce festival? On imagine qu'on pourra y manger des crêpes, mais il y a sûrement d'autres choses aussi qu'on pourra y faire et y voir.
Oui, alors bien entendu, quand on pense à la Bretagne, on pense aussi à la mer. Donc, c'est-à-dire qu'on a organisé un stand où vous pourrez manger des huîtres, un stand où vous aurez des moules. Et on essaye, après, c'est évident, ce ne sera pas des producteurs locaux bretons, hein, mais on a essayé de recréer l'esprit de la Bretagne qui touche à la mer. Donc, comme je disais, dégustation d'huîtres, dégustation de moules. On aura bien entendu nos crêpes et nos galettes for frogs, qui, avec en pairing, ce sera sur du cidre. Donc, on aura un bar où vous pourrez venir déguster cidre, bière, vin. On aura aussi organisé des danses bretonnes. Donc, on a réussi à contacter la communauté bretonne en Australie. Donc, il y a un compte Facebook qui s'appelle Braise Sydney, qui ont été super on board avec nous pour pouvoir participer à l'événement et organiseront 2 heures de danse bretonne pendant les activités. Et donc, on est super, on a hâte. Je ne vous cache pas que c'est ce challenge breton, mais on a hâte d'afficher nos drapeaux bretons haut en couleur et d'inviter les gens à venir découvrir les produits et puis la culture, aussi bien musicale que danse, que nourriture. Donc, c'est très excitant.
Ok, alors je le rappelle encore une fois, ça se passe donc le 1er février prochain, dites-moi si je me trompe, mais c'est entre 2 ouais. et 8 heures de l'après-midi évidemment, et ça se passe dans le nord de Sydney à Kirribilli, à Subpace Platypus, donc c'est au bord de l'eau, hein, c'est ça
C'est exactement ça. Alors, juste pour faire un petit récap, c'est qu'effectivement on a choisi le week-end de la Chandeleur, parce qu'en tradition française, comme elle se respecte, on mange des crêpes pendant la Chandeleur. Donc, on s'est dit le week-end, le samedi, le premier, à partir, on s'était dit faire une twilight. Donc, de 14h à 20h, les festivités feront là. Et donc, c'est la Subbase Platypus. Ce sera au niveau du ferry North Sydney. C'est-à-dire que ça sera très accessible, même depuis la CBD, prendre le ferry, descendre à North Sydney. Et puis, ce sera la Subbase Platypus qui est un tout petit peu en hauteur, juste au-dessus du ferry. Donc, ce sera un événement couvert avec une vue époustouflante sur la baie. Donc, on s'est dit, s'il fait trop chaud ou s'il pleut, au moins, ce sera couvert. Et on espère que tout le monde pourra en profiter, peu importe le temps. On s'était dit, pourvu que ce ne soit pas un vrai temps breton où il pleut, on va essayer de profiter du soleil australien pour notre événement.
Et c'est gratuit.
C'est gratuit. Alors, bien entendu, c'est gratuit. Après, uniquement les stands seront payants, comme certains marchés ou festivals que vous trouvez. Entrée gratuite, musique, danse. On aura aussi, on a l'entreprise Tefal qui se joindra avec nous et on fera des démonstrations de crêpes Suzette avec les poils Tefal. L'idée, c'est d'apprendre aussi à nos invités, à ceux qui participent à notre événement, à apprendre comment Fofrox fait des crêpes Suzette en utilisant les équipements des poêles Tefal comme à la maison. Donc, on a prévu plusieurs petits ateliers entre les crêpes Suzette, les danses bretonnes, où tout le monde sera invité à danser et à participer, parce que l'objectif est quand même d'apprendre un peu la culture bretonne, incluant la danse. Et puis donc, il y aura différents stands. On aura aussi une agence de voyage qui va pouvoir proposer des voyages sur la Bretagne. Nous aurons aussi un stand qui va représenter des merveilleuses affiches images de la Bretagne. Donc, on a essayé de regrouper un maximum de collaborateurs et de stands qui nous suivent sur présenter la Bretagne haut et en couleur.
Très bien. Eh ben, c'est noté, un événement à retenir donc dans vos agendas. Et je rappelle à nos auditeurs qui voudraient avoir plus d'informations ou qui veulent noter exactement toutes les informations pratiques, le festival, le nom du festival, c'est Brittany Down Under. Voilà, en le tapant dans un moteur de recherche, vous tomberez très vite sur la page qui résume toutes ces informations. Merci encore Marianne Poiré. Et donc, à très bientôt au Festival Breton.
Merci Grégory, à très bientôt.
c'était Nu de Clara Luciani, la grande chanteuse Clara Luciani. Voilà, on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, date de l'enregistrement de ce nouvel épisode de notre série sur l'histoire de l'Australie, c'est le Nouvel An lunaire, qu'on appelle également le Nouvel An chinois. Il tombe cette année, donc le 29 janvier 2025. Et je m'étais dit que c'était, eh bien, l'occasion rêvée de nous intéresser justement à l'histoire de l'une des communautés les plus importantes en Australie, la communauté chinoise. Comme d'habitude, on va retrouver l'historien Romain Fati pour en discuter ensemble. Bonjour Romain.
Bonjour Grégory, merci de me recevoir.
Eh bien, c'est un plaisir, comme d'habitude. Alors, je le disais, la communauté chinoise en Australie, c'est l'une des plus importantes. D'après le plus récent recensement, il y a 650 000 personnes résidentes en Australie qui sont nées en Chine. Si on ajoute les personnes d'origine chinoise, donc qui ont la nationalité australienne, mais des ancêtres venus de Chine, ça représente 5,5% de la population australienne. Et cette présence est particulièrement visible dans certaines villes, notamment à Sydney, où les personnes d'ascendance chinoise représentent un peu plus de 10% de la population. Alors, Romain, communauté chinoise, eh bien, c'est une histoire comme quasiment celle de tous les peuples en Australie, une histoire d'immigration. Et ce qui m'a surpris en faisant des recherches pour cet épisode, c'est que on a parlé beaucoup de l'histoire de l'immigration sur cette chaîne dans des épisodes précédents. On sait que jusqu'à, en final, assez récemment, la politique migratoire australienne était très stricte et particulièrement hostile aux personnes non européennes. Et pourtant, les premiers Chinois arrivés en Australie sont arrivés déjà il y a très longtemps, dès le 19e siècle en fait.
Oui, tout à fait. Alors, pour rappel, avant 1788 et donc la colonisation britannique, il y a très peu de contact avec l'extérieur entre les aborigènes et les populations non aborigènes de la région. Et donc, en Australie, à moins d'être aborigène, et donc là depuis près de 60 000 ans, vous êtes forcément arrivé par la mer ou plus tard par les airs. Et donc la communauté chinoise ne fait pas exception à cette règle. Et en réalité, ça arrive assez tôt avec la colonisation de l'Australie. Il y a plusieurs raisons. La première, elle est, si vous voulez, géographique. C'est-à-dire que les Britanniques sont obligés de s'arrêter en route pour se ravitailler ou pour faire vivre le commerce sur leur nouvelle colonie. Si bien que les anciens ports de Macao et de Canton à l'époque étaient souvent utilisés pour relier l'Australie au reste du monde. Il semblerait que le premier Chinois venant s'installer en Australie, ça date de 1818, donc c'est très tôt. Alors, il fait un peu figure d'exception. Là, en réalité, où il y a une forte augmentation, c'est au moment de la ruée vers l'or. Et ce sont des richesses incommensurables qui attirent des milliers d'étrangers, des dizaines de milliers d'étrangers.
Et ça, juste pour situer dans le temps, on est à ce moment-là à peu près au milieu du 19e siècle, hein, c'est ça?
Exactement. Donc, le début des années 1850, et ça dure quelques années. Si bien que les Chinois, comme d'autres, se disent « bon, il y a de l'argent à faire, en l'occurrence de l'or ». Et à partir de 1855, pardon, vous avez des milliers de Chinois qui arrivent. Et pour 1858, vous avez près de 42 000 Chinois qui sont déjà installés dans l'État du Victoria, qui est l'État dont la capitale est Melbourne aujourd'hui. Et donc, c'est une migration importante parce qu'à l'époque, l'Australie est très peu peuplée. En plus de la ruée vers l'or, un petit peu avant, il faut rappeler qu'il y avait déjà plusieurs milliers de Chinois qui étaient arrivés par les systèmes des engagés, c'est-à-dire des travaux de servitude, des faux contrats, enfin des vrais contrats, mais si vous voulez, l'esclavage était interdit, donc il fallait bien trouver une manip pour s'arranger. Et donc, plusieurs milliers de Chinois étaient déjà arrivés dans la Nouvelle-Galles du Sud et vers Sydney entre 1848 et 1853. Donc, vous avez ces deux communautés qui viennent en Australie pour le travail. Et dès le début, ça pose problème. Ce qu'il faut voir, c'est que quand vous établissez une colonie, vous avez besoin de main-d'œuvre pour pouvoir développer la colonie, travailler, etc. De façon traditionnelle en Australie, le parti anti-immigration, c'est le parti de gauche. Pourquoi ? Parce que plus vous avez de travailleurs, moins la main-d'œuvre coûte cher. Et donc, la droite est plutôt en faveur de l'importation de travailleurs parce que ça réduit le coût du travail. La gauche cherche plutôt à protéger les travailleurs et donc à avoir moins d'immigration. Donc, dès les années 1850-1860, vous avez une opposition à l'immigration chinoise en Australie, non seulement pour ce qui est considéré comme étant, disons, du racisme, qui l'est très certainement à l'époque, et par ailleurs, par rapport à cette question du travail. Donc, vous avez déjà plus de 40 000 Chinois dans les années 1860 qui sont installés en Australie, avec une chose à noter, c'est qu'il s'agit en très grande majorité, une écrasante majorité, d'hommes.
Et alors, vous évoquiez cette réticence d'une partie de la population et des partis politiques de gauche. Ce racisme, il se manifeste pas que à travers des discours, il y a aussi des actes de violence à leur encontre.
Alors oui, complètement. En fait, il faut s'imaginer que ces champs aurifères dans le Victoria, c'est vraiment le Far West. Chacun fait un peu ce qu'il veut. En fait, il y a une telle effervescence que des camps se montent ça et là et que des communautés donc ethniques s'affrontent. Vous avez, nous on associerait ça à des pogroms, je sais bien que ça s'applique à une autre communauté, mais vous avez des émeutes qui sont assez régulières où, pour faire simple, en fait, vous avez des Australiens blancs, britanniques qui tapent des Chinois pour les déloger. Donc ce racisme-là, il est présent dès le début. Alors, c'est de la compétition économique, mais il y a aussi, vous savez, le 19e siècle, c'est quand même là où se solidifie l'idée de la hiérarchie des races et du darwinisme. Et c'est un discours qui est extrêmement présent en Grande-Bretagne, en France, dans plein de pays européens, et donc en Australie, puisque colonie britannique. Donc, les personnes de couleur sont très mal perçues et vivent un racisme quotidien. Elles sont souvent ostracisées, en réalité, dans les champs aurifères et forment leur petite communauté pour justement essayer de se protéger.
On en avait déjà parlé dans la mini-série à l'intérieur de cette série qu'on a consacrée à l'histoire de l'immigration. La Fédération australienne, elle voit le jour en 1901 et l'idée derrière sa création, c'est avant tout pour les différentes colonies australiennes de reprendre le contrôle de leur politique migratoire. Et spécifiquement, il s'agit de juguler, voire même de stopper complètement cette immigration chinoise. Donc en fait, ce que je trouve un peu fou, c'est que l'État australien tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est né de cette peur et du rejet que suscitait à l'époque l'immigration chinoise.
Complètement. Alors, je vais redécoudre un petit peu tout ça pour nos éditeurs.
Je vais être un petit peu provocateur, mais on peut dire que l'Australie, c'est du made in China, en fait.
Je tiens à mon poste, donc je vais faire attention à ce que je vais dire. Mais le mot est bien trouvé. Alors, en fait, en 1901, quand l'Australie se fédère, vous savez, c'est comme les États aux États-Unis. Vous avez des États qui forment un État fédéral qui est géré depuis Washington. Eh bien, ici, l'équivalent de Washington, c'est Canberra. Les trois points clés de la fédération australienne, c'est pas cette idée de nouvelle nation jeune qui veut s'émanciper de la Grande-Bretagne. Ça, c'est le récit pipeau, si vous voulez. La réalité, la première chose, c'est d'homogénéiser, les barrières douanières entre les États, de sorte à faciliter le commerce au sein de l'Australie. Deuxième point, l'armée, avoir une manière de défendre toute l'Australie et donc de se fédérer pour pouvoir avoir une marine, une armée, etc. Et la troisième idée, qui est donc la plus importante, c'est de pouvoir contrôler l'immigration. Et vous allez me dire, mais quel est le lien avec les Chinois? Le lien avec les Chinois, il est simple. Si vous avez des États qui sont des colonies au sein de l'Empire britannique et que chaque État fait sa loi, que ce soit sur l'éducation, les routes, l'immigration, si tel État vous interdit de rentrer, vous allez rentrer par un autre État. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le Victoria, là où il y a les mines d'or, met en place le Chinese Restriction Act. C'est une loi qui vise à faire que les ressortissants chinois ne puissent débarquer dans l'État du Victoria. Mais qu'est-ce que font les Chinois? Ils sont pas bêtes. Ils débarquent ailleurs, en Nouvelle-Galles du Sud, ils débarquent dans le Queensland, et surtout dans une petite ville proche de la frontière du Victoria, mais qui est dans l'État d'Australie méridionale, qui s'appelle Robe, R-O-B-E. Et donc, les Chinois y arrivent, et puis traversent à pied, et vont dans les champs aurifères. Et ça, les habitants du Victoria ne peuvent plus le supporter, parce que quand vous arrivez quelque part, vous pouvez après descendre à cheval, à pied, comme vous pouvez. Et donc, pour mettre fin à ce système où chaque État fait ce qu'il veut vis-à-vis de sa politique migratoire, les États australiens font voter leur population et une majorité est en accord pour créer une fédération où un certain nombre de pouvoirs d'État vont être transférés au Commonwealth d'Australie, à savoir la capitale fédérale de Canberra. Et la première loi, en réalité les premières lois de ce tout nouveau Parlement australien en 1901, vise à mettre fin à l'immigration de couleur. C'est-à-dire, si vous êtes blanc, vous pouvez rentrer, et si vous n'êtes pas blanc, vous ne pouvez pas rentrer. C'est aussi simple que ça. Et c'est le début de ce qui a été appelé la White Australia Policy, la politique de l'Australie blanche, qui est fondamentalement raciste et sur laquelle on a fait plusieurs épisodes.
Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode consacré à l'histoire de la communauté chinoise en Australie. Le prochain sera publié d'ici quelques jours. En attendant, je vous invite toutes et tous à vous abonner à justement notre chaîne de podcast L'Histoire cachée d'Australie sur votre plateforme audio préférée. À très bientôt.
Tu me chantes, todo está bien.
Monsieur Yannick Noah, todo está bien, une très belle chanson de Yannick Noah. Les courtes pauses, on se retrouve dans quelques instants. Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien aujourd'hui, on parlait à William Rosten et à Jacques Eppelbaum. Vous êtes en visite depuis la France. Contez-nous un petit peu le processus de votre voyage. William Rosten, vous accompagnez votre livre ici.
Oui, d'abord je suis avec vous pour parler d'un roman dont on va certainement discuter juste après. Et puis en même temps, on est tous les deux ici où on va à Sydney pour le congrès international de neuroendocrinologie, c'est-à-dire les relations entre le système nerveux et nos hormones.
D'accord.
C'est surtout tout le travail qui existe, comment notre cerveau peut fabriquer des hormones et comment des hormones que nous avons dans notre corps peuvent influencer notre comportement et notre façon de vivre.
D'accord. Est-ce que ça a une relation avec tout ce qu'on entend parler par rapport aux maladies d'Alzheimer, c'est lié?
Il y a un lien direct dans ce sens que ce sont les mêmes molécules qui peuvent jouer un rôle dans la maladie d'Alzheimer et puis dans le système endocrinien, dans les hormones, oui.
D'accord. On atteint des niveaux de recherche qu'on n'a jamais atteints auparavant parce que la recherche évolue et on est surpris par ce qu'on trouve aujourd'hui ou pas?
Absolument, absolument. La recherche avance de façon spectaculaire, puisqu'il y a, enfin, il y a une quarantaine d'années, on ne savait rien sur la maladie d'Alzheimer. Maintenant, on connaît les constituants principaux des dépôts qui se trouvent dans le cerveau. On est capable de les voir du vivant du malade, alors qu'il y a une dizaine d'années, la seule façon de faire le diagnostic, c'était après la mort du malade. Désormais, on peut prédire de plusieurs années lorsque la maladie va apparaître grâce à l'imagerie cérébrale, grâce à ses marqueurs biologiques.
D'accord. Et ça veut dire qu'on en sait de plus en plus sur la maladie d'Alzheimer, si on se concentre sur la maladie d'Alzheimer, juste pour un instant, ça veut dire qu'on en sait un peu plus. Est-ce qu'on avance vers une cure? La question que tout le monde va vous poser, parce que ça atteint énormément de gens.
Ça atteint, heureusement, ça n'atteint quand même qu'une une minorité des personnes âgées, hein, c'est de l'ordre d'une dizaine de pourcents des personnes âgées. Ce qu'on est capable de faire désormais, c'est d'avoir une idée des facteurs de risque. Et il y a un certain nombre de facteurs de risque sur lesquels on peut travailler, comme par exemple les facteurs de risque cardiovasculaires, le régime alimentaire, l'hypertension, tout ce genre de choses, on peut travailler dessus et on a des bonnes nouvelles en termes d'épidémiologie, c'est-à-dire que il y a des études qui sont sorties, une étude au Danemark, une étude en Angleterre, qui montrent qu'en termes de population, le pourcentage de personnes atteintes a tendance à diminuer par rapport il y a une vingtaine d'années. Justement parce qu'on est en train de commencer à travailler sur ces facteurs de risque et de prévention.
D'accord. Il y a quelques temps, j'ai lu un article justement là-dessus où on parlait d'une herbe ou d'une plante en Afrique. Ça, vous qui êtes chercheur, vous appréhendez ces nouvelles comment ?
Vous savez, la recherche, c'est une longue patience et pour être sûr de quelque chose, il faut que la chose soit répétée. Et qu'on puisse montrer de façon dans une autre étude que ce qui a été montré est vrai. Et il y a beaucoup d'effets d'annonce. On voit effectivement c'est une maladie terrible et qui intéresse beaucoup les gens. Les gens ont très peur de ça et donc les journaux sont très intéressés et donc il y a des grands titres dans les journaux. Mais souvent, malheureusement, ces effets ne sont pas suivis. Il y a eu le ginkgo biloba qui a été une piste. Cette piste est encore à l'étude actuellement, mais on en a parlé il y a une dizaine d'années. Les études vont sortir maintenant dans quelques temps.
D'accord. Vous pouvez me répondre tous les deux. Au niveau de la recherche mondiale justement dans le secteur, il y a de la collaboration entre la France, l'Australie, la Grande-Bretagne, les États-Unis et d'autres pays. Ça collabore bien ou il y a des petits clashs parce qu'on a une différente approche. On l'a déjà vu hein, dans plusieurs interviews que nous on a fait ici à l'antenne où on se rend compte que les pays se parlent pas forcément tous très bien. Dans votre domaine, ça se passe comment ?
Alors dans le domaine de la neuroendocrinologie en général, ça se passe plutôt bien. Dans le domaine de l'Alzheimer en particulier, les études, par exemple les études de génétique, se font maintenant pratiquement au niveau mondial. C'est-à-dire que il y a un facteur de risque génétique qui est très important, qui est un allèle d'une protéine qui s'appelle l'apolipoprotéine E. C'est une protéine qui lie le cholestérol, donc ça fait le lien un peu avec les facteurs cardiovasculaires. Et en dehors de ça, il y a d'autres facteurs de risque, mais beaucoup plus faibles. Et donc, pour trouver ces facteurs de risque, il faut des populations très importantes. Et donc ça nécessite donc une collaboration au niveau, au minimum, d'un continent. Et en fait, maintenant, les consortiums se rejoignent les uns les autres. Et ça fait pratiquement un consortium mondial pour avoir des populations de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le groupe témoin et dans le groupe des patients.
D'accord. Donc, et l'INSERM est... Et
partie prenante
très impliquée dans
absolument
là-dedans.
L'INSERM a été majeur dans le développement en Europe en particulier de ce type de consortium.
Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait encore beaucoup plus d'actions globalisées, parce que nous, en médecine et en biologie, on est encore un peu trop individualiste par rapport aux physiciens qui ont des gros appareils et qui ont besoin de travailler ensemble.
D'accord.
On ne travaille pas encore suffisamment ensemble, je pense.
D'accord. La technologie aussi joue un rôle hyper clé en fait là-dedans.
Absolument.
Plus l'avancée technologie, avance, plus la technologie avance, plus ça vous aide, vous chercheurs, vous physiciens.
Comme Jacques l'a dit, l'IRM fonctionnel, par exemple, nous a permis chez l'individu vivant, en tous les cas, de faire des grandes avancées, aussi bien dans notre connaissance même du cerveau. Et puis aussi de réinventer la roue, parce qu'on voit des choses que l'on avait déjà imaginées il y a très longtemps, mais que l'on peut voir maintenant directement sur le cerveau humain,
d'accord,
sans aucun problème.
D'accord. Et la génétique dans tout ça ?
La génétique joue un rôle. Si on parle par exemple de la longévité, on estime que l'héritabilité, c'est-à-dire la part génétique de la longévité, est de l'ordre d'une vingtaine de pourcents. Si on fait des études sur des jumeaux monozygotes, c'est-à-dire issus du même œuf, on observe à peu près ça. Donc l'environnement est très très important également.
D'accord. L'état des recherches en Australie, vous avez pu échanger ici avec vos collègues, il y a des choses qui sont faites différemment, il y a des similitudes, vous prenez contact, c'est des contacts qui sont établis.
Oui, ça c'est, qu'il soit australien, américain, javanais, du moment qu'on travaille sur le même sujet, ça c'est clair, et Jacques a des collaborations avec des gens à Brisbane, à Adélaïde, et puis...
Oui, nous avons des contacts assez fréquents avec des collègues australiens.
Et ça a l'air singulier, mais en fait, c'est hyper important parce que ça vous permet de vous rencontrer et de vous rencontrer en dehors de la blouse blanche et du laboratoire.
C'est surtout comme ça que ça marche. Ouais. Vous savez, les meilleures collaborations, c'est devant un repas, devant
bonne bouteille de vin,
voilà, à boire et on met des plans en place, des échanges d'étudiants quand on peut, et puis ça marche comme ça.
D'accord. Ces jeunes étudiants, justement, vous me faites un bon lien. Votre domaine, c'est un domaine qui est pris en compte par les jeunes.
Oui, les neurosciences en général, ça intéresse encore pas mal les étudiants. La neuroendocrinologie, on est considéré un peu par les neuroscientifiques. On s'intéresse à une partie du cerveau qui est la partie la plus basse, la plus basale, qui s'appelle l'hypothalamus, et on est considéré par les gens qui travaillent sur le cortex comme un petit peu ceux qui s'intéressent à la poubelle du cerveau, si vous voulez. Mais néanmoins, on a pas mal d'étudiants. J'ai par exemple une étudiante qui a eu une bourse d'études pour venir passer quelque temps à Brisbane, comme on le disait, pour travailler dans un laboratoire avec qui nous collaborons.
D'accord.
Et ils ont fait des études très remarquables dans le domaine de la croissance, qui est aussi importante pour la neuroendocrinologie.
D'accord. C'est intéressant ce que vous dites sur le cortex, parce que un des signes de l'Alzheimer, c'est dans le cortex.
Oui, oui. Oui, tout à fait. Le cortex, l'hippocampe, le striatum, mais c'est relativement compliqué parce qu'on s'aperçoit qu'il y a différentes formes de maladies d'Alzheimer. Certaines qui commencent dans le cortex, d'autres qui commencent au niveau du striatum, les formes familiales en particulier.
D'accord. C'est pour ça qu'un IRM, en fait, c'est clé, c'est hyper important.
Absolument. Absolument.
On peut voir un peu partout.
Voilà.
Fait.
Et comme je le disais tout à l'heure pour la génétique, pour l'IRM, c'est pareil. C'est-à-dire que maintenant, il y a des banques d'images qui peuvent être utilisées dans le monde entier. Chacun peut aller chercher sur les images qu'on trouve dans ces banques et faire sa propre recherche.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Bertrand, à quoi vous pensez le soir en vous couchant ? C'est quoi vos trucs, vos secrets ? Comment vous faites pour être ce que vous êtes ?
C'est l'été, saison des concupiscences, à part toi.
Bertrand Burgala, l'homme idéal. Allez, et si on parlait de photographie sur le rallye Dakar ?
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, au bivouac à Bichat, sur les routes du Dakar, je suis avec Stéphane Mussard, avec un bel accent mauricien, ici, à Bichat, en Arabie Saoudite.
Bonjour, c'est moi.
Alors Stéphane, parle-nous un petit peu de votre vie, parce que vous êtes photographe. Alors, on avait parlé à un des pilotes, le pilote avec la voiture aux couleurs mauriciennes, Pascal Thomas. Mais vous êtes de la même équipe et photographe.
Ouais, c'est ça. En fait, je suis copain avec Pascal Thomas. On s'était rencontrés il y a quelques années parce qu'il m'avait demandé de faire un petit montage pour lui. Et puis j'ai trouvé que ce qu'il avait ramené comme image, que ce soit téléphone ou GoPro, je trouvais que c'était pas top, et qu'il fallait qu'il m'emmène un jour au Dakar. Puis il m'a dit non, mais ça coûte super cher, tu pourras jamais venir. Et puis on a insisté, j'ai insisté un peu, et puis on a demandé au team même des rallyes de nous accompagner dans cette aventure. Et puis ils ont dit oui en 2024, pour le Dakar 2024. Et j'ai ramené des belles images, donc ils m'ont redit oui pour le Dakar 2025. Donc je suis vraiment hyper chanceux de pouvoir vivre ça une deuxième fois.
Est-ce que c'est différent d'aborder un deuxième Dakar qu'un premier Dakar? Le premier, on est, moi, j'en parle en connaissance de cause, hein, c'est mon premier Dakar. Donc on ouvre les yeux, on absorbe tout. Deuxième, on vient un petit peu en connaissance, ou faut jamais vraiment trop penser qu'on connaît le Dakar?
En fait, on vient en connaissant le Dakar. C'est-à-dire que j'ai une bibliothèque d'images dans la tête. Maintenant, je sais quoi filmer, à peu près. Mais on a toujours des surprises. On a toujours des surprises. Bon, c'est tant mieux pour moi, pour le film qui va être fait plus tard. On a des réflexes quand on a l'expérience du Dakar. C'est-à-dire que on sait qu'on va être fatigué, mais on sait qu'on va récupérer facilement. On sait comment dormir, on sait comment manger. Il ne faut pas trop manger le soir, par exemple. Il faut bien manger le matin. Il faut boire régulièrement toute la journée. J'essaye de garder un œil neuf quand même, parce que ça reste quand même un événement incroyable. Il se passe des choses tous les jours. Il y a des nouveautés tous les ans aussi. Donc, un peu des deux. C'est-à-dire que j'ai l'expérience, mais je profite à fond, comme si c'était la première et comme si c'était la dernière d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est la bonne approche. Ce Dakar, pour vous, c'est quelque chose qui vous a habité depuis que vous étiez petit?
Oui, parce que en fait, bon, depuis l'île Maurice, moi, je regardais des voitures sauter dans le désert. Je disais, waouh. Bon, déjà, je connaissais pas le désert. À l'île Maurice, il y a pas de désert. Mais c'était impressionnant. C'est toujours impressionnant de voir des hommes et des femmes faire des choses aussi incroyables. Donc oui, je les enviais. Je voulais faire Dakar moto quand j'étais petit. Je voulais toujours l'année dernière. Quand je suis arrivé, j'ai vu les motards, j'ai vu les chutes, j'ai vu la vitesse à laquelle ils allaient. J'ai fait, c'est pas pour moi le Dakar. Je le ferai pas. Mais peut-être en tant que copilote un jour, j'adorerais faire le Dakar.
Ouais, c'est vraiment, ça vous prend. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous. La réalisation de la vitesse et du danger qui est pris par les motards. Je pense qu'à la télévision, on se rend pas compte que leur vie, elle est vraiment en danger à chaque moment de ce Dakar.
Oui, et puis ils vont extrêmement vite. Et puis, en fait, tous les terrains quasiment sont dangereux, que ce soit le sable, ça glisse énormément, les dunes, s'ils vont pas assez vite, ils s'enfoncent, ils perdent énormément de temps, mais s'ils vont trop vite, ils passent par-dessus les dunes, ils font des chutes, il y a les cailloux. L'année dernière, on a eu des images incroyables, des motos qui faisaient des chutes incroyables, ou enfin juste qu'ils s'arrêtaient, parce qu'il y a une super image avec l'équipe Century, le copilote qui descend de la voiture pour aider un motard à pousser dans les cailloux. C'est une image assez célèbre que vous retrouverez facilement sur YouTube. Et ils sont crevés. Au bout de 4-5 jours, les motards, ils sont épuisés. Donc, à un moment donné, je crois que ça devient des machines. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant.
Alors, parlez-nous un petit peu de votre vie sur le Dakar. Vous dites que vous faites des films, vous faites des photos. C'est quoi la vie d'un photographe sur le Dakar? Parce que c'est ultra photogénique. L'Arabie Saoudite, ça faut le dire, c'est ultra photogénique. La couleur, le ciel, les contrastes sont incroyables.
Alors pour ma part, c'est un peu spécial parce que je suis rattaché uniquement au team MD Rally Sport. Donc je fais des photos sur le bivouac. Ça veut dire que c'est sur tous les mécanos qui travaillent, et les voitures, etc. Donc il y a beaucoup de boulot, parce que pour moi, visuellement, c'est super sympa. Il y a de la soudure, il y a de la découpe de tôle, c'est vraiment super. Et puis avec toute cette poussière, pour moi, c'est pénible pour le matériel, puisqu'il faut nettoyer tous les soirs, mais c'est super beau avec les lumières.
Le jour, la nuit, enfin, il y a des contrastes incroyables.
Ouais, ça c'est tout. Pour moi, c'est un régal. Visuellement, c'est un régal. Après, de temps en temps, je peux voir des assistances sur la route, parce que je vais à ce moment-là dans le véhicule d'assistance quand c'est autorisé, évidemment. Et je fais parfois quelques départs, quelques arrivées. Malheureusement, j'ai pas accès vraiment aux zones de course. Quand je rentre, je sais que j'ai suffisamment d'images sympas. Et puis, je communique du coup avec ces images-là. On communique sur les réseaux sociaux pour MD Rally Sport. Donc, je fais des petits réels, des petites stories tous les jours, quotidiennement.
La vie sur le Dakar, vous nous l'avez expliqué, le Dakar en lui-même à Maurice, c'est reçu comment? Est-ce que c'est quelque chose de mythique? Parce que Maurice, c'est quand même l'Afrique, le Dakar a ses racines en Afrique, donc est-ce qu'on sent quand même qu'on fait partie de cet ADN qui est aujourd'hui très encore vivante dans le Dakar?
J'ai pas tant l'impression que ça, parce que je crois que c'est plus une légende, une espèce de légende, le Dakar, oui, le Dakar. Cette année, on a eu la chance d'avoir des super journalistes qui nous suivent, donc qui refont revivre ça.
C'est-à-dire de l'express.mu, c'est ça?
Exactement, de l'express.mu, qui font revivre la légende, justement. Donc on espère qu'avec, grâce à Pascal Thomas et j'espère à mes images aussi, on va pouvoir faire revivre cet engouement pour le Dakar, parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Elle est belle cette voiture quand même avec le drapeau.
Ah, c'est la plus belle, pardon, c'est la plus belle.
Merci en tout cas, et puis c'est un plaisir de vous avoir rencontré comme ça, juste au petit déjeuner, hein. C'est aussi ça le Dakar. Hein.
Ouais, bah, c'est un grand plaisir de te rencontrer aussi.
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
Manu Chao avec Out of Time Man. Manu Chao, grande icône de la chanson française.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour notre programme en français en ce samedi. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que toutes nos émissions, tous nos podcasts sont disponibles en ligne sur notre site internet sbs.com.au/french. Et n'oubliez pas, il y a une centaine de films disponibles pour vous gratuitement sur la plateforme d'SBS en demande à n'importe quel moment. Et le tout, bien entendu, gratuitement. Prochain rendez-vous avec notre programme, c'est demain dimanche et le reste de la semaine, mardi, jeudi et bien entendu samedi également à 13h. Bon après-midi. Et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.